שלום וברכה, שבוע טוב.
Je referme les micros. Je pense que je parle au nom de tout le monde pour nous dire qu'on est très content de vous retrouver après cette très longue et très difficile pause. Mais
Tout
Baruch Hashem.
Le plaisir est pour moi, le plaisir est partagé. Et Bezrat Hashem, j'espère que nous aurons la force de continuer, Bezrat Hashem, avec une grande capacité de partager cette étude. Nous sommes avec la demande qui j'avais promis de revenir sur les yeux et la bouche, j'ai l'impression, parce que nous n'avons pas parlé de ces notions concernant les midot que l'homme doit s'approprier. Nous avons parlé, je vous rappelle le sujet principal, que les sphirot, toutes ces sphirot supérieures, doivent non seulement nous guider d'une manière lointaine, j'allais dire, mais nous devons les approprier, nous les approprier, les faire entrer en nous pour pouvoir véhiculer toutes ces midot, toutes ces mesures, toutes ces vertus divines que Dieu a mis en place dans notre monde. Et donc, nous avons traversé quelques organes vitaux, et là, je voudrais m'arrêter au niveau des yeux, car il y a ici donc une leçon, comment faire au niveau des yeux et à quoi correspond en réalité l'œil humain pour qu'il puisse être un support pour la sphère qui lui correspond. Alors d'une manière générale, la Kabbalah nous dit que les yeux sont le reflet de la Neshama et plus précisément, ils sont lié à la chokhma, à la sagesse divine qui se traduit dans les yeux de l'homme, de la femme, de l'humain. Il faut donc savoir comment préserver cette sagesse divine en préservant les yeux. Et donc, nous avons ici Be'einav avec ses yeux, Loistakel Beshum Davar Megune. Il faut éviter de regarder des choses qui ne sont pas dans la ligne droite de l'éthique même qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans ce monde. Omnam tihiye pekuchot leashgiach ulrachem ala umlalim kefi kocho. On doit avoir un bon œil. Un bon œil, c'est sous-entendu une générosité pour surveiller ceux qui n'ont pas, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont faibles. Donc il y a ici une attribution à la vision qui n'est pas seulement au niveau de l'optique, mais aussi au niveau de la bonté. On sait très bien que la Gemara nous dit que pour choisir une femme, il faut la choisir lorsqu'elle a un œil qui est bon. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais tout simplement, « kala she'enea tovot ». Une kala, lorsque ses yeux sont bons, en kol gufa tsarich bdika, la Gemara nous dit que son corps n'a pas besoin d'être vérifié. Autrement dit, une femme, pour choisir une femme, il faut qu'elle soit généreuse. Et c'est ça la bonté de l'œil. Et donc nous continuons. Ne pas fermer les yeux lorsqu'on est en présence de quelqu'un qui crie, qui a de la douleur, qui souffre autour de nous, ne pas fermer les yeux. Là aussi, c'est une expression qui veut dire ne passe pas à côté comme si de rien n'était. Tu dois ouvrir les yeux, être tout le temps concentré sur ce don, sur cette générosité, à savoir combien je peux remplir le monde de tous les manques qui lui sont inhérents. Les manques de ce monde, c'est une création divine. Kadosh Baruch Hu a créé ce monde avec des manques, volontairement, pour que l'on puisse devenir donc des associés à compléter ces manques. Et l'une de ces actions, c'est justement de remplir ceux qui n'ont pas, d'aider ceux qui ne peuvent pas. Et donc, c'est avant tout avec les yeux que nous sommes rivés sur notre prochain pour venir à son aide, lui venir en aide. Ela itbonen bedaato, donc il y a aussi toujours un jeu entre la vision, le sens même de la vision, et le sens intérieur, ésotérique, kabbalistique. Il y a ici donc un regard extérieur avec un regard intérieur. Donc le regard intérieur se dit « yitbonen bedaato », il verra dans son da'at. C'est-à-dire que les yeux là sont rivés vers l'intériorité des choses. « Kefi kocho », au maximum de tes forces, tu dois pouvoir voir des choses qui ne sont pas vues. Tu dois arriver à un niveau où tu as tellement travaillé tes sens que ta vision devient non seulement une vision réelle de ce que le monde t'apparaît, tu dois être capable de voir une autre vision, une vision parallèle, et pour cela il faut travailler. Veyaore rachamav, et donc tu dois réveiller tout le temps ta bonté, ta miséricorde, bifne hashamaim ou bifne beriot. Il faut que ce soit et au niveau du ciel, et au niveau des créatures. Velo tikanes ve'einav shum ra'a, kederech sha'ein ha'elyona pkucha tamid u'mabitat tadir el ha'tov. Tu dois donc te river à l'œil supérieur, l'œil divin, pour justement adapter ton œil à cet œil d'en haut. Ki'ein be'ein ir'u. Il faut voir la réalité avec les yeux du divin, ce qui nous ferait beaucoup de bien en ce moment, où justement, grand nombre d'entre nous sont dans une période un tout petit peu de désespoir, d'angoisse, de mélancolie, de tristesse, d'incertitude. Mais tout ça, c'est parce que nous avons acquis une vision humaine seulement et que nous avons oublié la vision divine. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais nous sommes là pour étudier, pour justement acquérir une vision divine de tous les événements que nous vivons. Et au moment où nous acquérions cette vision divine, eh bien les choses ne se voient plus de la même manière. Et c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu voit le bien. Et il nous demande, et toi aussi regarde, vois Betuv Yerushalayim dans la bonté de Jérusalem, parce qu'il est très facile de voir le mal qui se trouve à chaque période et à chaque génération. Et aujourd'hui, bien entendu, beaucoup plus que jamais, si on ne fixe la réalité qu'avec des yeux superficiels, les yeux de la chair, eh bien on tombe facilement dans une dépression. C'est pourquoi nous étudions cette Torah précisément. La Torah de la Kabbalah, c'est l'acquisition d'un regard nouveau sur la même existence. À l'extérieur, il n'y a rien qui change, mais toi, tu verras les choses avec un autre œil. De la même manière que Dieu voit les choses avec un autre œil, de la même manière que Rabbi Akiva, lorsqu'il a vu la destruction du temple, était capable de rire. Il riait. Alors que ses amis, qui ne voyaient que l'extériorité du phénomène, eh bien, pleuraient. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pourquoi Rabbi Akiva précisément? Parce que c'était le maître de la Kabbalah, le maître de l'étude de la vision intérieure des choses. Et mes chers amis, on n'est pas là pour étudier des textes. Le texte n'est qu'un contexte, n'est qu'un prétexte. Le véritable secret de notre étude, c'est de pouvoir nous donner, nous offrir un autre regard, un autre niveau de regard sur la vie. Et donc, c'est très facile de tomber même dans l'étude et croire qu'on est en train d'étudier des textes. Je vous le répète, l'étude des textes que nous sommes en train de traverser, c'est une étude qui est censée nous donner un nouveau regard sur la vie. Et je préconise de vous concentrer sur cette chose-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous parlons, que nous disons des mots, Vous devez avoir la kavana de monter le niveau de la vision. Comme Abraham Avinu vaïssa et Einav, il a élevé ses yeux. Pourquoi il n'y a pas marqué qu'il l'a vu ? Mais tout simplement parce qu'il ne regardait pas avec les yeux que les autres regardent. Il demandait à ceux qui étaient à côté de lui, « Qu'est-ce que tu vois ?» Eh bien, les gens voyaient ce qu'il y avait à voir. Et donc, il savait, Abraham, qu'il n'était pas au niveau. Pour être au niveau, il faut être capable de voir, d'entrevoir les choses qui ne sont pas montrées au premier degré. Et pour cela, il faut pénétrer un deuxième degré, un troisième et un quatrième degré. C'est comme dans la lecture, on peut lire le premier niveau, c'est historique, c'est sympathique. Ce Shabbat, on a lu la sortie d'Égypte, d'accord. Mais si tu ne regardes pas ça au niveau intérieur, eh bien, ça va rester au niveau de l'histoire et c'est dommage. Il faut que cette sortie d'Égypte t'atteigne, te touche, te caresse la peau, l'esprit. Et c'est pour cela que cette étude est très importante à notre époque. Justement par nous sauver, pour nous sauver de la déprime. Je vous rappelle que les sages dans la Gemara nous disaient que cette période que nous vivons est une période pré-messianique, va être difficile à vivre pour ceux qui ne regardent que l'extérieur du phénomène. Et que ceux qui ont la capacité par l'étude qu'on est en train de nous offrir de regarder, d'apprendre à regarder l'intériorité de tous les phénomènes, eh bien ce sera une délivrance différente. Et donc selon notre capacité à voir dans les choses et non pas seulement leur extériorité, altistakel bakankan, ne regarde pas seulement le secret qui te paraît visible à l'œil, il y a un secret beaucoup plus profond à l'intérieur même du texte. Il faut ouvrir la boîte. Bithya, la fille de Paro, a ouvert la boîte pour voir Moshe. Si elle n'avait pas fait cet acte d'ouvrir la Teva, elle n'aurait pas vu Moshe. La Teva, je vous répète que c'est un mot en hébreu, Rachet Tevot. Pour voir l'intériorité du texte, il faut ouvrir le texte. Il faut laisser le texte déployer ses ailes. Sinon, le texte reste des lettres noires sur un parchemin blanc. C'est un ratage, c'est dommage. Donc il faut ouvrir, il faut pénétrer. C'est comme Noé qui est rentré dans la Teva. Il est rentré dans la lettre, dans les mots, pas seulement dans une boîte. Ça, c'est le premier niveau de la lecture. Noé est rentré dans la Teva. Noé est rentré dans le secret des mots, dans les combinaisons des lettres. Et là, vous avez une toute autre vision de la réalité. Voilà comment nous pouvons acquérir la chokhma divine dans notre être à travers nos yeux. C'est qu'il faut habituer nos yeux à voir profond, à voir dedans. Veine yadua ki Avraham avinu alav shalom. Nous savons bien que Avraham avinu alav shalom baletaken achelek bochata adam arishon bariya. Bien, c'est lui qui est venu en premier régler, arranger, corriger la mauvaise vision du premier homme. Adam Arishon n'a pas vu l'intériorité du phénomène, donc il s'est laissé avoir, entre guillemets, par ce qui était offert devant ses yeux. Et Avraham Avinu va venir corriger tout ça. C'est pour ça que Avraham Avinu va élever son regard. Vaïssa Avraham et Einav vayar et hamakom merachok, dit le texte. Abraham va lever, va élever sa vision pour voir le lieu en question de loin. Quel est ce lieu qu'il doit voir au loin? Eh bien, c'est la royauté d'Israël, c'est l'avènement messianique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que chaque acte de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était un acte qui regardait la fin du processus, qui ne s'arrêtait pas là, aujourd'hui, maintenant. Ça veut dire que chaque acte d'Abraham, Avinu, d'Yitzhak et de Yaakov, c'était un acte qui était relatif à toutes les générations. Sinon, ils n'auraient pas fait cet acte-là. Et c'est pour ça qu'à la fin de la vie d'Abraham, le texte nous dit « Ve'Abraham zaken baba yamim » Ve'Adonai berach et Abraham bakol. Abraham est venu vieux, rempli de ses jours, car ses jours étaient remplis de ce regard intérieur qui lui a permis en réalité de remplir ses jours par une vision différente de la vie. Et il nous a laissé ça comme héritage. Nous sommes les fils d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, il ne faut pas l'oublier. Donc nous avons un rôle à jouer de continuer à développer en nous ce regard profond qui corrige le regard de la faute. Sous-entendu qu'à chaque fois que nous avons fauté dans notre vie, c'est que notre regard n'était pas profond, il était superficiel et on est tombé dans le panneau. Parce que si on s'était donné le temps de voir profondément ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train de vouloir faire, on n'aurait pas fauté. Et donc la perdition, la perte de notre vision profonde, elle aboutit, chas v'shalom, à une faute. Et donc Abraham est venu corriger cela. Et donc il a regardé au loin. Il a élevé les yeux pour regarder au loin. Oh kesher kara, oh hamalach, la même chose au niveau de l'ange. Comment est-il capable de regarder et de voir des anges? Pourquoi nous ne voyons pas d'anges? Mais tout simplement parce que Abraham ne voit plus le côté qui est là devant mes yeux. Abraham est capable de regarder l'intériorité de la vie. Donc dans l'intériorité de notre regard, il y a des anges. Il y a une multitude d'anges. Et non seulement on les voit, mais on est censé les entendre. Et donc nous sommes dans tout ce processus-là. Rod Yesh Lomar, de plus, qu'on vient de dire, on peut rajouter le Fima Shekatav Belikute Torah ou Besidur Bekavanot. Le Ari HaKadosh nous écrit dans son Sidur au niveau des Kavanot qu'il faut avoir. Elohim Yir'elohase. Elohim, c'est celui qui voit, qui fait voir le fameux bélier à Abraham qu'il va attacher, ligoter à la place de son fils Yitzhak. Vous vous rappelez au niveau de la Akeda, à un moment donné, il voit un bélier à la place d'Yitzhak, il va le prendre, il va le sacrifier. Eh bien, le texte nous dit « Elohim ir Elohase ». C'est Elohim qui voit et qui fait voir cet agneau, ce bélier, comme vous voulez. Eh bien, « Shehagvurot sotmot vechotmot etrush areiya ha'elyona » nous dit le Ari HaKadosh, dans ce texte-là, pourquoi c'est le nom de Elohim qui apparaît? Ben, tout simplement parce que Elohim, comme nous l'avons déjà étudié, représente Midat Hadin, les éléments de contraction, les éléments limitants, limitateurs. Et donc, lorsqu'il y a limite, il y a extinction, obstruction du regard. Et donc, Chas v'Shalom, quand il y a des rigueurs qui se mettent face aux yeux de l'homme, ou de la femme, de l'humain, eh bien celui-ci n'est plus capable de voir l'intériorité des choses. Il va tout juger par rapport au monde extérieur dans lequel il est. Et c'est plus facile de juger par rapport à ce que je vois. C'est très compliqué de se dire c'est une voix céleste, divine, qui est en train de me montrer le chemin. Je ne peux pas accepter parce que je ne suis pas sûr. Alors que ce que je vois, moi, j'ai l'impression que c'est une certitude. Comprenez qu'il y a un dilemme ici. Il y a quelque chose de très profond. La question simple qui se pose, est-ce que Abraham n'entend pas des voix qui ne sont pas vraies? Peut-être qu'il est devenu fou. Comment est-ce qu'un prophète sait qu'il ne voit pas ou qu'il n'entend pas des paroles qui sont vaines, qui ne sont pas vraies? Comprenez qu'on peut aujourd'hui rentrer à l'hôpital, dans un hôpital de fous. Si on prétend avoir des visions que nous n'avons pas, eh bien c'est ça la grandeur du prophète, c'est que la certitude, tellement il a travaillé le regard intérieur, l'ouïe intérieure, la vie intérieure, qu'il est capable de voir et d'entendre réellement les paroles qui circulent dans l'univers à partir du Saint béni soit-il, de l'absolu Saint béni soit-il. La reine, et c'est pourquoi il faut adoucir le nom de Elohim, Behamtakatan, lorsqu'on va adoucir les dinim, les rigueurs, Behamtakatagvurot, lorsqu'on va adoucir toutes les mesures, Nasa'enav vera'a. Eh bien, tu peux lever les yeux et voir. Et ça, c'est donné. C'est donné à chacun d'entre nous, Rabotai. Ce n'est pas pour rien que nous étudions. Les sages nous disent que chacun d'entre nous doit se dire à haute voix, quand est-ce que mes actions et que ma façon de vivre atteindront le niveau de vie d'Abraham, d'Itsraël et de Yaakov? Pas moins que cela. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Admatai yagiu maasai le maase avotai Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Quand est-ce que je vais arriver à ce niveau de vie, de conscience de vie? Moralité, c'est donné à chacun d'entre nous à condition de le vouloir vraiment et d'y travailler, de mettre le paquet. On nous a promis que la prophétie va revenir à la fin des temps et nous y sommes à la fin des temps. Donc nous devons redevenir ce que nous sommes, à la source. Et ça, c'est le niveau des yeux. Là, nous entrons dans un contexte kabbalistique qui parle des royaumes qui ont existé avant le royaume d'Israël. Sans rentrer dans tous les détails, je vous l'explique d'une manière générale. Avant la mise en place du royaume messianique, le royaume d'Israël, le royaume de Dieu, il y a différents rois qui vont régner dans le monde. C'est-à-dire, il y a comme des essais qui n'aboutissent pas, qui meurent, qui s'éteignent, l'un après l'autre. 7 degrés sont morts de cette manière. Nous, le peuple d'Israël, nous sommes le 8e degré de royauté. Vous comprenez même pourquoi maintenant, parce que nous avons déjà étudié le secret du chiffre 8. Car le chiffre 8 nous relie à l'infini. Et le roi qui est le roi d'Israël s'appelle Hadar. Pas comme le mois de Hadar avec un Aleph, mais avec un hé, Hadar, la splendeur. Hé, Dar, c'est la lettre hé qui représente la Shekhina, la présence divine, Dar, qui a trouvé une assise, une maison sur terre, comme en arabe, Dar, la maison. Ha, Dar. La lettre de la royauté d'Israël est en train de se mettre en place. Et pour cela, eh bien, il faut grandir. Ayukulam besoda enaim. Et dit ici le Rav que tous ces rois qui ont régné et qui sont morts étaient tous au niveau des yeux. Autrement dit, ils sont morts parce que leur regard sur la vie était faux, était erroné. Ils ne savaient pas voir. Ils mouraient de leur propre vision des choses. Imaginez-vous quelqu'un qui vit dans un monde qui n'est pas réel et qui voit des choses qui ne sont pas. Eh bien, on peut lui faire voir des choses horribles à tel point qu'il se meurt, qu'il ne peut plus continuer. Eh bien, ces rois, ces fameux royaumes sont morts à cause de ces visions néfastes. Ou keshenasa Abraham et Einav. Et là, lorsque Abraham a vu nous, lui, déjà après la création du monde, après la faute du premier homme, il voit, parce qu'il élève ses yeux, Igbia, il a fait en sorte que son regard se lève, Gavoa, Venasa Gam Hakelim Shenishberu. Et là, le secret, c'est qu'il n'a pas seulement levé les yeux pour voir, comme nous on peut imaginer en levant la tête, c'est qu'il a fait monter tous les ustensiles qui se sont brisés au moment de la brisure des vases. Il a tout corrigé en même temps au niveau de sa vision, de son regard. Ça veut dire que j'ai un regard qui soigne tous les éléments de mon passé. Vous imaginez ? Chacun d'entre nous a eu des traumatismes dans son enfance, dans son passé. Si vous aviez aujourd'hui un regard qui soigne tout ce qui s'est passé, si vous arriviez, si nous arrivions à regarder notre passé avec un autre œil, bien c'est exactement ce que fait Abraham. Et donc il va élever tout ça. Et au lieu de rester avec une mémoire négative de toute cette, de tous ces traumas, eh bien il va avoir un nouveau regard, ça va être corrigé. Il va être heureux. Et donc, il a corrigé tout ce qui était au niveau du secret des yeux. Et pourquoi, dit le Rav, qui a tzadikim osim lemata ou poalim lemala? Parce que les tzadikim sont capables, en corrigeant leur propre traumatisme de vie, ils sont capables de soigner et de guérir les traumatismes de l'humanité tout entière et de tout ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Et là, je vous donne une clé, Rabotai. Chaque fois, vous vous posez comme question, puisque nous étudions tous ensemble et avec les rabbanim qui m'ont précédé et avec moi. Tout ce qui concerne la Kabbalah, eh bien, Rabotai, vous vous posez sûrement la question, mais qu'est-ce qui faisait la différence entre des kabbalistes et l'homme normal que je suis ? Eh bien, Rabotai, les kabbalistes savaient que lorsqu'ils guérissaient un mal dans leur vie, à eux, ce n'était pas que ça qui était en train de guérir. Ils avaient la capacité d'élargir leur regard sur tout ce qui se passe et tout ce qui est malade en même temps. Comprenez la force. Ça veut dire que lorsque je donne un cours maintenant et que j'arrive à caresser votre neshama quelque part, ne vous arrêtez pas à vous-même. Faites en sorte, et moi le premier, que mon cours ne soit pas seulement à ceux qui nous regardent maintenant. J'ai dans ma conscience intérieure de réparer par ma parole toutes les choses que j'ai cassées, détruites par ma parole. Et donc la Torah n'est plus qu'un texte à étudier. Ça devient une guérison de toutes les malédictions. Et toutes deviennent des bonnes dictions, des bénédictions. Et donc, vous voyez que l'étude porte en elle cette force de guérison de l'âme et de l'univers. Et c'est ce que faisaient tous les kabbalistes. Et c'est pourquoi Abraham Avinu est le premier à commencer à comprendre ce secret. Que chaque acte d'un homme individuel, apparemment, eh bien, ça rayonne sur l'univers tout entier. Ubifrat ha'avot, et plus précisément au niveau des pères. Rappelez-vous que Akadosh Baruch Hu a sorti Abraham. Il y a marqué Vayotse oto achutza. Et les sages nous disent d'où il a sorti. Alors au premier degré, il a sorti de sa tente. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas le cas. Rashi, sur place, nous dit, il a sorti de la vision étriquée dans laquelle il était. Et il a fait monter au-dessus de tout l'univers. Et il lui a dit, maintenant, regarde, du haut vers le bas, comme moi, Dieu. Ça veut dire que Dieu a fait monter Abraham à son propre niveau divin pour qu'il voie le monde avec les yeux du divin. Rabotaï, c'est énorme. Et c'est pour ça le terme utilisé là-bas, c'est Habet na Hashamaima. Habet, c'est regard du haut vers le bas. C'est pas du bas vers le haut. Ça fait partie des secrets de l'hébreu. On ne peut pas utiliser le terme habet si on regarde du bas vers le haut. Ce n'est que du haut vers le bas. Et il lui dit, regarde dans ce terme-là de habet, hashamaima, le ciel. Toi, quand tu regardes le ciel, tu le regardes du bas vers le haut. Eh bien, Abraham a regardé le ciel du haut vers le bas. Il était au-dessus du ciel. Ça veut dire que ses actes agissaient sur tout l'univers tout entier, même au-dessus du ciel, au-dessus des étoiles, au-dessus des astres, au-dessus de toute la création. Amarti Elohim atem, ubne elyon kullechem. Akadosh Baruch Hu nous considère comme des êtres de lumière supérieure, comme des dieux sur terre. Bnei Elyon, les fils, les enfants du supérieur. Mais si vous ne voulez pas comprendre cela, si vous avez peur de votre ombre, si vous avez peur de votre identité réelle, première, primordiale, eh bien, vous allez vivre comme tous les autres. À un niveau humain, étriqué. Or, si nous vivons, nous, Israël, avec un niveau humain étriqué, qu'est-ce qu'on va apporter aux nations du monde, puisque nous sommes là pour éclairer le monde? Comment est-ce que tu peux éclairer le monde si toi-même, tu ne vois pas l'intériorité des phénomènes? Donc, nous devons devenir des porteurs, des soutiens, comme dit le texte, chez Mayu Merkavto shel Makom, la Merkava du Makom. Tu dois devenir une Merkava. Une Merkava, c'est une combinaison, les harkiv en hébreu, combiner, construire le divin qui peut s'installer sur toi, en toi. Que Moshe Katav Rashi, comme Rashi nous l'enseigne dans la paracha de Lech Lecha, Bapasuk Vayal Elohim, Elohim Me'al Avraham. Dieu est monté au-dessus d'Avraham. Elohim est monté au-dessus d'Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit que Avraham est devenu le support, tout simplement, de ce degré divin. Donc Abraham était comme le divin sur terre. Bien entendu, ce n'est pas le divin, mais c'est un porteur de son message. C'est tout ce qu'on nous demande d'être. Il n'y a pas besoin d'être plus que cela. Ou bedivrei Rabbi Nathan, et dans les paroles de Rabbi Nathan, tout ceci s'est lié aux yeux. Et je vous rappelle que c'est à la demande du rabbin Messan que je parle de cela, parce qu'il m'a demandé à deux reprises de revenir sur la notion des yeux et sur la notion après de la bouche. Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, a écrit Hatzarot, tous les soucis, Ve'amachalokot, et toutes les disputes, toute la machloket, ou bilbuladat, à chaque fois que tu es dans ton esprit complètement embrouillé, dérangé, mélangé, She'en yod'in heichan ha'emet, à tel point que tu ne sais plus où se trouve la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, dans une époque post-moderne. Vous savez ce que ça veut dire? Le post-modernisme, ça a une définition. C'est que tout le monde a raison. Voilà le post-modernisme. C'est-à-dire, toi tu as raison, moi j'ai raison, l'autre il a raison, tout le monde a raison, donc personne n'a raison, on ne peut rien faire dans ce monde, rien. Les terroristes ont raison, ceux qui tuent ont raison, ceux qui violent ont raison, et ceux qui crient parce qu'ils ont été violés, eux aussi ils ont raison. Mais alors qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est un monde où la vérité n'est plus, dit Rabbi Nathan. Hem chevlo shel Mashiach. Rabotai, ce sont les souffrances du temps messianique. Je veux le traduire avec mes mots. Dit Rabbi Nathan clairement que les souffrances pré-messianiques sont liées à une disparition de la vérité de ce monde. À ce que tout soit mélangé dans votre tête, à ce que vous soyez complètement perturbé, embrouillé par tous les événements qui sont autour de vous. Si c'est le cas, c'est parce qu'on n'a pas la vision nécessaire et adéquate, comme je le dis depuis le début du cours. Voilà ce que ça veut dire. Et donc nous sommes dans cette période-là, où tout est mélangé. Les gens qui vivent en exil ont l'impression de vivre en Israël. En tout cas, ils se persuadent. Ceux qui vivent en Israël ont envie de quitter Israël, certains d'entre eux. Ceux qui voient les phénomènes pré-messianiques se disent « mais j'ai envie de vivre en Finlande » parce que là-bas, on voit le lever du jour et le seul souci, c'est d'aller manger au restaurant. Et toi, tu ne peux pas contredire parce que tu te dis, mais comment répondre? Il y a des soldats qui meurent en Israël et tu me dis que c'est une période messianique, mais c'est la panique totale. Mais tout ça, ça fait partie des épreuves du Mashiach. Asher kol kadmonenu rabotenu zichronam livracha. Et sachez que tous nos anciens, tous les sages d'Israël, hayu mityar'im, avaient l'angoisse, ou mitpachadim, ils avaient peur, mais od misé de vivre à notre époque. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter? Ça veut dire que nous sommes très courageux, vous allez me dire on n'a pas le choix, de vivre à notre époque. Les sages d'Israël ont prié pour ne pas faire partie de cette époque. C'est dingue. C'est-à-dire on a envie d'aller dormir et de nous réveiller après le dévoilement messianique. Pour l'instant, je ne peux pas. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Je vais dormir avec des soucis, je me réveille le matin avec une rma. C'est ça la vie. C'est ça le messianisme d'Israël qu'on entend depuis qu'on est petit. Mais si on savait que c'était comme ça, peut-être qu'on aurait nous-mêmes prié pour ne pas faire partie de cette génération. Comme les sages. Comme ils disaient de leur propre bouche. Rabbi Nathan est en train de nous ramener des paroles de nos sages de la Gemara. Yete. C'est de l'araméen. Qu'ils viennent, en parlant du Mashiach. Qu'ils viennent. Mais, vela achamine. Que je ne sois pas là, moi, pour le voir. Vous vous rendez compte? Un sage d'Israël qui dit, je ne veux pas voir la venue du Mashiach. Tellement ça va être une période angoissante où les yeux de la chair extérieure vont nous faire voir une réalité qui est tellement perturbante qu'on aurait préféré ne pas être là. Et il continue. Ki en tsara gedola me'atzarot sheyesh ata bedorotenu. Parce qu'il n'y a pas de souffrance aussi grande que les souffrances qu'il y aura dans cette génération. Et tout ça, be'avonotenu, par nos fautes. Harabim, qui ont été nombreuses, malheureusement. She'ahemet ne'elam ve'nistar me'od. Parce que la vérité s'est tellement cachée par le mensonge qu'on ne voit plus la vérité. Vous voulez une image de cette vérité qui se cache et qu'on ne voit plus? Eh bien, ce sont les sept vaches en Égypte qui sont montées du Nil. Elles étaient maigres, vilaines. Et elles ont mangé, avalé littéralement, sept grosses vaches. Et le texte nous dit « Velon noda ki baou el kirbena ». Si tu regardais les vaches maigres après avoir mangé les grosses vaches, elles sont restées maigres. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le mensonge dans le monde, tout ce tribunal de Hague, de La Haye, comme vous l'appelez en France, tous ces mensonges, tous ces juges avec ces moumous sur la tête. Quelle plaisanterie, quelle honte, avec des perruques du Moyen-Âge, en train de nous jouer la justice mondiale. Le mensonge a avalé la vérité. Et on ne voit pas à l'intérieur du mensonge qu'il a avalé la vérité. Ça veut dire que tu peux faire même un... comme dans l'histoire du loup. Tu peux lui couper le ventre, la grand-mère ne sort pas. Elle n'est pas dans le ventre de cette méchanceté, de ce mensonge. Alors, il est où? Elle est où, cette vérité? Ne'elam venistar me'od. Ça va être une période où ça va être tellement caché que tu auras du mal à voir la vérité dans ce monde. Et les gens qui disent cette vérité, eh bien, on va se moquer d'eux. Et tout ça arrive d'une seule faute. Des désirs sexuels. Dit le Rav, Shenit Pashet Arshav Baolam Beyoter, qui aujourd'hui, c'est le summum dans le monde. Et d'où ça commence? Par la vision, par le regard, par des visions qui ne sont pas adéquates. Et même ceux qui veulent vraiment avancer, devenir des sages et se conduire comme des chassidim, et inam nekiim mita'ava zot, ne sont pas propres de cette envie, de ces désirs. Ou ketzatam, et certains d'entre eux hem ba'ale averot mamash, rachamana litzlan. Et certains d'entre eux sont même des fauteurs réels dans ce domaine. Rabotai, je vous donne ce cours et j'ai peur. Nous sommes là pour essayer de faire entrer en nous la sagesse divine. Ça commence par la correction de notre regard. Et tout ceci vient par l'éloignement de la vraie vérité absolue. Et tout vient à cause de cette avarie dans la brite, dans l'alliance. Chez Upgamadat, qui vient en réalité d'une avarie beaucoup plus élevée, celle du cerveau central, du cerveau du troisième œil. Gama Emet, c'est là-bas où la vérité a reçu un coup, Chas Veshalom. Et tout ceci, regardez comment il va le résumer, qui n'y ouvre tous ces désirs-là. Oup Gama Enaim, ça vient des yeux. Et donc tu veux avoir la sagesse divine en toi. Tu veux véhiculer cette sagesse divine en toi. Alors fais tchouva immédiatement sur tout ce qui concerne le regard et les yeux. Parce que c'est de là que tout commence. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la Kabbalah, les sept rois qui ont régné avant le règne d'Israël ont tous fauté dans cette vision des yeux. Ça veut dire qu'avant que le règne messianique, ne serait-ce que même sur toi-même, en tant qu'individu, ne se mette en place, il faut que tu meures quelque part sept fois avant que tu comprennes qu'il faut corriger ton regard, ta façon de voir. Que tu élèves ta façon de voir. Kemoshe Katouf, et tout ceci est écrit dans le Shema Israël. Velo tatouru achare levavchem vachare einechem. C'est parce que vous allez après votre cœur qui vous donne envie d'aller regarder. Asher atem zonim achareihem. Et vous allez devenir pervers à cause de votre cœur qui vous mène à regarder certaines choses. Qui a ein roa, parce que l'œil regarde, vehalev chomed, et le cœur se réveille pour des envies qui ne sont pas dans la sainteté. Hashem yirachem al kulanu, amen. Ki ikar abechira, et donc dit le Rav, l'essentiel de notre libre arbitre, de notre choix dans la vie, qui est la moyenne, le médiateur, le médium entre l'avant-création et la pré-création, c'est les yeux. Regardez et écoutez bien. Le Rav est en train de nous dire que la seule différence entre l'avant-création et la pré-création, c'est les yeux. Comme si l'élément maître de la vision, c'était en réalité l'œil. L'œil, c'est le maître qui a fait en sorte que du néant naisse la création du monde. Tout commence par la vision. Avec des mots simples, c'est l'essentiel même de l'homme, c'est-à-dire de son choix, de son libre choix, de ses choix de vie. Et voilà, le Rav va continuer. Shehem, les yeux, Ikar Soda Bechira, l'essentiel du secret du choix que l'homme a dans ce monde. Sheyesh koach beyad haadam listakel be'enav lechan ou lechan, parce que l'homme a le libre choix de regarder ici ou bien là. Personne ne te force. C'est toi-même. C'est parce que tu n'as pas la vision, tu ne l'as pas travaillée, parce que la vision de ton étude ne s'est pas approfondie et tu te laisses encore attirer par le regard superficiel des choses, qui est certes très attirant. Et ça, c'est une avarie qui se ferait, et au niveau des yeux de chair, le problème, c'est que ça arrive aussi aux yeux du cerveau, aux yeux de l'intellect, aux yeux intérieurs. Et donc, tout le sens même du regard est déformé, est dégradé. Et voilà ce que nous avons dit depuis le début du cours. Les yeux sont en réalité le canal par lequel la sagesse divine nous pénètre. Chacham einav berosho. Le sage, il a les yeux au niveau de sa tête et pas à un autre niveau. Kemo shekatuv, et comme il est écrit, vatipakachna einei shenehem. Leurs yeux, Adam et Ève, se sont ouverts. Ils ont ouvert les yeux. Ils ont ouvert les yeux, c'est une expression qui est liée à la faute. Ça veut dire que les yeux d'en bas se sont ouverts, alors qu'ils avaient jusqu'à maintenant les yeux d'en haut qui étaient ouverts. Et là, ce sont les yeux d'en bas qui se sont ouverts. Et l'expression est restée. Il a ouvert les yeux. Mais sachez qu'à la source, c'est une expression négative. Malheureusement, ki ikar ha-chibur ve-ha-klaliut she-ben achduto yitbarach u-ben ha-beria, parce que le lien essentiel entre le tout, c'est-à-dire l'unicité primordiale d'Akadosh Baruch Hu et la création du monde, ou aliyede brinat ha'enayim, c'est les yeux. C'est-à-dire, il y a le néant avec l'infini béni soit-il, il y a la création, et entre les deux, il y a les yeux. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est l'élément conducteur, c'est l'aimant, c'est la colle entre avant-création et après-création. D'ailleurs, dans tout le cheminement de la création, on parle de la vision divine. Vayar Elohim et Haor Kitov. Vayar Elohim Kitov. Il voit que c'est bien et il termine le jour en question. Il voit que ce qu'il a fait est bien, est bon, et il termine la création qu'il est en train de créer. Tout est lié à cette vision. Malheureusement, même la faute d'Ève et de Adam. Va tere ha'isha, et la femme a vu ki tov ha'etz le ma'achal, que l'arbre était bon à la consommation. Vechita ava, et que c'était une attirance sexuelle. La'enaim, pour les yeux. Et donc les yeux sont un moyen. Shehem soda memutsa. Donc ça vient du mot centre. Memutsa veut dire la moyenne. Donc c'est le moyen entre l'avant-création et l'après-création. Bechinat abechira. Et Rabbi Nathan nous dit que c'est là que se cache le véritable choix de l'homme. De voir ou de ne pas voir ce qui n'est pas censé voir. Et quand nous fixons les choses bien, Nichlal achar beria b'echad al yadam. Tu te relies immédiatement à l'unicité divine. Le Rav est en train de nous dire que si mes yeux sont liés aux valeurs du bien qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, immédiatement je suis relié à lui. Ve'alken, et c'est pour cela. Kol haTorah kula, toute la Torah entière, klula ba'enayim, elle est liée aux yeux. Dans les livres secrets du Harizal, dans le Etz Chaim, je vous le montrerai plus tard, un jour, Blineder, vous voyez des pages entières où il n'y a que des yeux dessinés. Toutes les lettres du nom de Dieu sont dessinées avec des yeux. Le tétragramme, au lieu d'écrire un yud comme vous avez l'habitude de voir, il n'y a que des yeux, des yeux, des yeux, des yeux, les uns à côté des autres qui écrivent le yud. Après des yeux, des yeux, des yeux, des yeux, des yeux alignés qui écrivent le hé. Le vav et le hé. Et voilà, le Rav dit, « Ubekitve Harizal » et dans les écrits du Hari Akadosh, il est écrit chez Ikar Ashvira, que la majorité, l'essentiel de tous les dégâts, Haya Beor Ainaim, se trouve au niveau de la lumière des yeux. Encore une fois, on n'est pas au niveau de rentrer dans le secret vraiment de tout ce que cela veut dire, mais à notre niveau, Be'ezrat Hashem, parce que nous ne savons pas voir les choses comme il faut les voir. Et je vous donne un conseil que je me donne moi-même. De prier. Yehi ratzon milefanecha Adonai Eloheinu ve'Elohe Avotenu. Que ce soit agréable à ta volonté, à Kadosh Baruch Hu, shetitenli einaim lirot tov. Que tu me donnes les yeux pour voir le bien de ce monde. Et d'arrêter de regarder et de voir des choses qui ne sont pas. Avoir. Je vous donne par exemple un exemple. Vous savez que selon la Kabbalah, on n'a pas le droit de regarder un mécréant. Or, quand vous regardez la télé et qu'on vous montre Yichya Sinwan, Yimach Shemo Vezichro, et toute la bande de terroristes qu'on regarde tous les jours à la télé, il ne faut pas regarder ces visages, Rabotai. Le Ben Ishraï, Alav HaShalom, Rabbi Yosef Chaim, de Bagdad, dit qu'en regardant dans les yeux, ne serait-ce qu'une image de quelqu'un qui est comme ça, d'un méchant, d'un mauvais, eh bien, ça pénètre, Chas V'Shalom, il y a une énergie qui passe de l'œil à l'œil. Éviter. C'est pourquoi il faut voir ses maîtres dans les yeux. Quand tu étudies, regarde ton maître dans les yeux. C'est pourquoi un cours en présentiel est beaucoup plus fort qu'un cours en différé ou en diffusé. Mais malgré tout, on a la chance d'avoir le Zoom. Il faut regarder dans les yeux. Surtout si vous avez des grands sages. Comme le Rav Shechi, qui a Bechira ou Ba'enaim, car tout le choix que nous ayons dans ce monde, c'est dans les yeux. Vezesh Bikesh David Amelech Alav Shalom, et c'est ce que David Amelech a demandé, que la paix soit sur lui. Gal Einai Ve'abita Niflaot Mitoratecha. Akadosh Baruch Hu, dévoile mes yeux, enlève l'écorce qui se trouve devant mon regard pour que je puisse regarder niflaot les secrets de ta Torah. Vous comprenez pourquoi on n'arrive pas à étudier les secrets? Pourquoi on n'arrive pas à rentrer? Parce qu'on n'est pas dans la lettre Noun. Or, ici, regardez, je vais vous l'agrandir. Regardez ce que dit David. Découvre-moi les yeux pour que je regarde les 50 merveilles, Pelaot. Les Noun, Pelaot. Mitoratecha, qui se cache dans ta Torah. Encore une fois, le chiffre 50. Vous vous rappelez? L'au-delà. Le 7 x 7 plus 1. Le 8. Si je ne suis pas dans le degré du Noun, je ne peux pas regarder. Et pour être dans le degré du Noun, il faut que mes yeux soient nettoyés de tous les regards superficiels, négatifs, que le mensonge m'offre à l'extérieur. Je termine, on a encore 2 minutes avant les questions. « Ki yesh koach ba'adam lifchor batov » Et le Rav nous dit « Car il y a la force qui se cache chez chacun d'entre nous pour voir et choisir de regarder le bien. » Leistakel be'enav lemala, de regarder vers le haut. Beprinat ve'haya kasher yari Moshe yado ve'gavar Israël. D'imaginer les mains de Moshe vers le haut, qui donnait une direction de vision. Élève ton regard, monte à un niveau d'un regard beaucoup plus profond. Ve'gavar Israël, pour que Israël qui est en toi soit plus fort. Chas v'shalom, quand tu baisses les yeux, il est écrit Vegavar Amalek. C'est Amalek qui prend le dessus. Donc élève ta vision vers le ciel. Élève, c'est-à-dire regarde les choses profondément. On passe à la phase des questions, s'il vous plaît.
Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat. Moi, j'ai une première question, Rav. Quand vous dites le Rav, il dit, etc., c'est quoi le texte qu'on regarde? D'où est-ce qu'il sort?
Le Ben Ishraï?
C'est le Ben Ishraï, le texte que vous partagez là à l'écran.
Ah non. Ça, c'est le Rabbi Nathan, je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev.
D'accord. On a la question de Evelyne Garibaldi. Pouvez-vous évoquer votre pensée?
Oui, bonjour. Voilà, c'est une grande question dont je ne pourrais pas la poser entièrement. Mais ce que vous disiez, Joël, par rapport au regard, me touche profondément parce que je suis une femme et que j'ai énormément souffert depuis la puberté du regard et aussi de la malveillance des hommes à mon égard, et même aussi des femmes entre nous-mêmes. Je trouve ça très terriblement difficile. Excusez-moi, je suis très émue quand j'en parle. Et je pensais à une chose qui m'est venue au moment où vous parliez, c'était la beauté de la femme est là, à mon avis, pour réveiller en l'homme le lien entre justement l'esprit et le cœur, l'intellect, la vision et le cœur, et pour qu'il puisse être en contact avec sa bina et qu'il puisse redonner ça au monde. Et malheureusement, la beauté de la femme est un vêtement qui cache une vérité tellement profonde, tellement secrète, qui est liée justement au sod et à l'infini, et que malheureusement, dans nos sociétés, on a massacré cette notion, et que j'ai souvent souffert de cela, et que dans mon travail, j'ai énormément accentué quand j'ai accompagné des femmes et aussi des hommes à prendre conscience de cela. Alors quand vous parlez aujourd'hui de « je suis très touchée » et c'est quelque chose dont j'ai souvent parlé à ma fille qui elle-même a souffert à 9 ans d'un regard d'un instituteur qui lui a détruit sa scolarité quelque part, ça a été tout un travail. Et je trouve que c'est tellement essentiel de revenir à non pas diaboliser le corps de la femme, mais au contraire, à lui donner toute sa place, non pas pour qu'elle réveille chez l'homme le mal, mais au contraire, la beauté et le lien avec son féminin intérieur qui puisse se manifester sur Terre, et que cet infini que nous devons recevoir vers le fini devienne un infini sur Terre. Voilà ce que j'avais envie de dire.
Je n'ai rien à rajouter. Je n'ai rien à rajouter à ce que vous dites et je suis entièrement d'accord.
Merci.
Question de Madame Azan.
Oui, alors, Rav, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que malgré tout, nous sommes là en ce moment. C'est-à-dire que nous avons été choisis, chacun de nous, parce que Dieu sait ce que nous pouvons donner.
Tout à fait.
Et tous les matins, il nous ressuscite et nous, on dit « Moda Ani ». Donc, c'est possible, tout à fait possible. Et c'était magnifique ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que moi, je n'ai pas de télé. Et je me suis rendu compte depuis le début, j'ai compris, voilà, avec mon cœur probablement et ma tête, qu'il ne fallait pas regarder quoi que ce soit, qu'il ne fallait pas se perdre dans ces dédales où eux veulent nous mener. Nous, on est là et on est des témoins de Dieu qui nous aime. C'est tout.
Baruch Hashem, je n'ai rien à rajouter non plus. Vous m'émouvez toutes les deux et qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et réellement nous
Amen.
Nous sommes
Amen.
Là pour corriger.
Il protège tout ce qu'on aime.
Et c'est pourquoi notre étude est importante. C'est pour ça que notre étude est très très importante parce qu'elle soigne, elle guérit et elle prouve qu'on pour guérir. On est là pour guérir ce monde, on est là pour guérir de cette maladie mondiale.
Oui, parce qu'on sait que la vérité existe.
Tout à fait, elle est juste cachée, il faut qu'on la dévoile et c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu dans notre étude.
Ouais, ouais. Merci en tout cas beaucoup. Merci.
Question de Monsieur Ben Saïd.
Oui, bonjour Rav, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends, bonjour Monsieur Ben Saïd.
Bonjour, non, arrêtez avec le monsieur. J'ai écouté votre cours avec beaucoup d'émotion parce que ce n'est pas la première fois que j'entends des échos entre le cours de Rav Cherki, d'une certaine façon, le vôtre, même celui de M. Fison aussi. Et alors, j'ai une question à vous poser parce que ça me tarabuste depuis longtemps, mais le Rav Cherki tout à l'heure a parlé des rapports qu'il y a entre l'individu et l'individu et la collectivité, le total et le particulier. Avec vous, on voit cette séquence, le séquentiel et le simultané, et aussi la mesure et la surveillance. Je m'explique. On a Ein Sof, ensuite la liaison par les yeux, et ensuite la création. C'est un sens, mais il n'est pas univoque. La réciproque est à la fois importante, obligatoire, mais la simultanéité aussi. C'est-à-dire qu'au moment où l'on voit, par exemple, pour faire écho à Madame Garibaldi, après laquelle il est difficile de parler d'ailleurs, devant la beauté, on peut être émerveillé. Et immédiatement, les yeux peuvent s'affoler et nous rappeler qu'il y a cette beauté-là, et en même temps, il y en a une autre.
Tout à fait.
Que cette belle femme, c'est la beauté de Sarah, c'est la beauté de quelqu'un que j'aime beaucoup, de Tzipora, par exemple, puisque c'est elle qui circoncit ses fils. D'ailleurs, l'autre fois, on en a parlé, mais c'est vrai, chaque fois, à chaque inflexion de l'histoire de l'humanité, en particulier de la Bible, mais aussi dans les mythes grecs, les femmes sont à l'inflexion. Les hommes, finalement, ont des rôles assez vulgaires. Achille est un vulgaire assassin, Abraham se cache derrière sa femme, quand Moshe ne sait pas quoi faire, c'est Myriam et Tzipora qui réagissent. On est complètement éberlués. Mais ce qui est important, c'est, voilà, je voulais vous poser la question de la simultanéité dans le séquentiel, ce qui semble contradictoire.
Alors, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure dans mon cours, puisque j'ai dit que le regard n'est pas seulement dans un sens, mais il est dans l'autre sens aussi. Puisque Abraham Avinu, et je l'ai cité tout à l'heure, lorsqu'il faisait quelque chose, eh bien, c'était simultané et dans le monde dans lequel il était, mais dans tous les mondes et au-dessus même du monde, c'est-à-dire avant même la création. Ça veut dire qu'il y a une simultanéité, effectivement, parce qu'à ce niveau-là, le temps n'existe pas. Donc c'est obligatoirement dans tous les sens et au même instant. Et donc c'est très important d'avoir cette conscience-là. Et le fait que la Torah nous dise que certaines femmes étaient belles, et Sarah, Aïta Yefat Torah, Tohar Veifat Mar'e, ou Rachel, Aïta Yefat Torah Veifat Mar'e, c'est pas pour s'arrêter à ce niveau-là. C'est pour nous dire qu'en réalité, il s'agit ici d'un regard qui nous élève à quelque chose de plus élevé, à savoir la Shrina que cette femme représente. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. Et je n'ai pas grand-chose à rajouter aussi à ce que vous dites. C'est très intelligent et très en place. Merci beaucoup.
Question de Jonathan.
Ken Jonathan, shalom.
Jonathan, tu peux débloquer ton micro.
Shalom, shalom. Dibarno à la Réa, pardon, nous avons parlé avec de la vision, mais très souvent, dans mon expérience personnelle, j'ai remarqué que la vision des choses dépendait d'un autre élément qui lui était, à mon avis, intrinsèque, c'est le silence intérieur. Parce que souvent, en fait, j'ai l'impression que la vision, elle est peut-être, je ne sais pas si elle est au même niveau ou peut-être même en second plan par rapport au son, en fait. Parce que quand je regarde quelque chose qui est censé, pour ne pas donner d'exemple trop choquant, on va dire, quand je vois, par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui va maintenant tenter de voler quelque chose, mes yeux ont vu un acte mauvais. Mais techniquement, ce qui me pose problème, c'est que ça fait un bruit intérieur qui est insupportable. C'est pas juste au niveau des yeux. Mes yeux ont vu quelque chose, je peux plus le dévoir. Mais est-ce que le silence intérieur est entre guillemets parallèle à la vision, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient antérieurement? Ma question se base sur un autre principe, c'est que un aveugle qui entend voit souvent mieux que quelqu'un qui n'entend pas, entre guillemets, est moins, entre guillemets, handicapé que quelqu'un qui ne voit pas, pardon, justement, que quelqu'un qui voit mais qui n'entend rien.
Alors justement, ta question est très, très, très importante, puisque de toute façon, nous savons que l'aveugle dans la Torah s'appelle celui qui voit mieux, Sagi Naor, le meilleur voyant. Mais en fait, tous les sens sont à un degré qui est relié au niveau de leur source. Ce n'est qu'en descendant dans notre monde qu'ils prennent des étages. Et la vision, elle s'arrête lorsque l'ouïe commence. C'est pour ça que l'oreille commence à la fin de l'œil, quelque part. Mais en réalité, il y a un lien intrinsèque entre tous ces degrés, et tu as bien touché ce phénomène. Dans le monde où on voit la Torah, il est écrit justement « Vekola amroi metakolot » Le peuple a vu les sons. C'est-à-dire qu'il y a une liaison volontaire de la Torah entre l'ouïe et le son. Tout à fait.
Alors, question du rabbin Messin, grâce à laquelle on a eu le plaisir d'avoir ce cours. Et aussi, ça me fait penser que... Et je ne sais pas si on a vu ou si c'est juste moi qui ai oublié la chorma et le chesed. Comment ça redescend dans le chesed au niveau des sirotes.
On va parler des membres. Aujourd'hui, on a parlé des membres et on va parler de la bouche pour terminer. Et après, on fera Bezrat Hashem tout le cheminement.
Ok. Question du Rabbi Messan.
Oui, Toda Rava, Kevoda Rava.
Shalom, Rabbi Messan, merci.
Merci beaucoup. Comme vous le savez, je dispense vos cours tous les dimanches soirs. Et j'ai eu des questions. Et les gens sont vraiment, vraiment émerveillés. En Afrique, hein, beaucoup de mes étudiants sont des Africains, ils sont très, très émerveillés des cours que je prends de vous et je les redonne. D'accord, tel.
Que Dieu vous protège et qu'il vous fasse être un bon diffuseur et que moi aussi je sois un bon diffuseur. Merci.
Baruch Hashem. Bon, j'ai une question, c'est que nous avons 10 séphirot et il me semble que ce qui est créé dans la Kedusha est créé aussi dans la Touma. C'est-à-dire qu'on a le parallèle et là, ouais, avec 10 séphirot, mais on scripote de l'autre côté.
Oui.
Alors, la question me fut posée et j'ai répondu que c'est peut-être parce que la personne croyait que c'est le Keter et en même temps le Da'at. Mais je dis que quand il y a le Keter, le Da'at n'a plus lieu. Donc, moi, j'ai dit plutôt que c'est le Da'at qui est parfois multiplié par deux. C'est-à-dire que le Da'at, on a le Da'at Eliona et le Da'at Tartona. Voilà. Et là, on pourrait avoir 11 en clipot en face et 11 en séphirot. Je voudrais vous demander si c'est bon la réponse que j'ai donnée ou pas.
Alors, effectivement, lorsque nous sortons du 10, d'ailleurs, c'est 10 et non pas 11, mais c'est 10 et non pas 9. C'est comme ça que c'est écrit dans le Sefer Yetzira. Esser velo echat esre, esser velo techa. Ça veut dire qu'il y a 10 et non pas 11, mais il y a 10 et non pas 9. Ça veut dire que c'est un chiffre qui montre une globalité. Et lorsqu'on rajoute quelque part, alors là, vous avez mentionné Da'at Elyon et Da'at Tarton, mais ça peut être dans d'autres degrés. Si même la Malchut, elle sort et qu'elle va vers les clipotes, alors là, on est Chas v'Shalom sorti du territoire de la sainteté. Et c'est d'ailleurs dans le traité de Shabbat, dans la Gemara, dans le Talmud, c'est de ne pas sortir du domaine privé, qui est le domaine de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, mais ils n'ont pas le droit de porter Shabbat. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Qu'est-ce que ça fait de porter un crayon Shabbat ou mon porte-monnaie Shabbat ou mon mouchoir Shabbat? C'est parce que tu sors du domaine du divin et tu rajoutes quelque chose. Et quand tu rajoutes quelque chose, tu as gâché la chose. Et donc, vous avez raison.
Question de Simcha Maïssa.
Bonjour à Vioed, bonjour à tous. Oui.
Shalom, shalom, Simcha.
Shalom. Oui, je peux parler?
Oui, oui, on vous écoute.
Voilà, donc en fait, la première chose, c'est un petit exemple que j'ai rencontré par rapport à la vision de l'aveugle. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps une ancienne patiente, je suis thérapeute. Elle était avec sa maman qui était aveugle. Je n'avais pas rencontré cette femme depuis très longtemps. Je n'avais jamais vu sa maman. Mais je les avais aidés à l'époque aussi. J'avais aidé à faire venir une métapélète. Enfin, il y avait eu un lien en tout cas qui s'était créé, même si je ne la voyais pas, la maman. Et donc, ma patiente dit à sa maman, regarde, c'est Maïssa, c'est la psychologue qui m'a aidé. Et là, la maman répond, oui, je vois, elle a la photo du rabbi devant sa porte. Alors sa fille lui dit, mais maman, tu n'es jamais allée chez Maïssa. Elle a une réponse très, très, très drôle, parce que elle a occulté le fait que sa maman ne voyait pas. Et donc la maman a répondu, oui, mais c'est comme ça que je la vois. Alors incroyable. Voilà, ça c'est très joli.
C'est très beau, très, très, très joli, et merci pour ce
partage. Ça a même occulté la vision de sa fille en disant, mais oui, tu n'es jamais allé là-bas. Et la deuxième chose, c'est une question, hein, c'est par rapport aussi en réponse à Evelyne Garibaldi, qu'est-ce que ça veut dire quand Abraham dit à Sarah, maintenant je vois que tu es belle, alors qu'il l'a déjà épousé, il l'a déjà connu. Et quand elle rencontre le Abimelech, qui veut la capturer, et il lui répond ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà.
Tout simplement, les sages nous disent que Abraham voyait Sarah avec une sainteté supérieure. Mais le fait d'aller maintenant vers l'Égypte, de s'approcher de l'Égypte, de sortir de la terre d'Israël, c'est comme si la vision d'Abraham était descendue au niveau des Égyptiens. Et là, le regard d'Abraham par rapport à Sarah est un regard qui n'est pas beau, qui n'est pas bon. Et les sages nous le disent. Il est descendu dans la vision de Sarah, alors que jusqu'à maintenant, quand il était en Eretz Israël, sa vision était beaucoup plus élevée. Et ça nous montre ce que l'exil peut faire à l'être. Lorsqu'il vit en dehors de sa terre, sa vision n'est pas élevée. Elle est obligée de descendre. Il faut faire un travail énorme pour ne pas tomber dans cette vision-là. Merci. Donc c'est une remarque très, très intelligente et très belle. Toda Rabba.
Dernière question de Félicia. Et Félicia, vous pouvez débloquer votre micro.
Oui, shalom aleichem, Rav Shulchan, shalom. Et ma question est, pourquoi sommes-nous en ce moment dans tout ce monde audiovisuel? Et les visuels, ils priment, et qui nous envahit presque.
Je devais commencer le cours en disant ça. Et vous m'avez rappelé maintenant que je ne l'ai pas dit. Et je voulais dire au début de mon cours qu'on a passé un monde au niveau de l'audio et qu'on est arrivé maintenant au visuel. Et c'est le visuel qui est le plus élevé. C'est parce que justement nous devons corriger maintenant la vision. Nous sommes dans la dernière génération et Akadosh Baruch Hu nous a mis en place en Eretz Israël avec l'étude. Parce que si vous étudiez cette étude, ce n'est pas par hasard. Le nombre de personnes qui regardent ces cours, ce n'est pas par hasard. C'est parce que nous sommes capables d'arranger cette vision. Et bien, Ezrat Hashem, il faut demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à le faire et on réussira.
Amen.
Dans la Gemara, c'est Tashma, viens écoute. Dans la Zohar, c'est Achazé.
C'est la Torah d'Eretz Israël. La Torah d'Eretz Israël est liée à la vision. Toda Rabba à tous. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Belle semaine.